Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une attaque avec une arme à feu à Strasbourg. 3 morts, 13 blessés et un homme en fuite ce matin. Plus de 600 policiers et gendarmes sont mobilisés. Nous reviendrons évidemment longuement sur cette attaque dans un instant avec témoignages et précisions.
Et puis nous irons ensuite en Italie où le gouvernement se réjouit après le recul d'Emmanuel Macron sur le déficit de la France. Il pourrait dépasser les 3% du produit intérieur brut. Rome en profite pour plaider sa cause auprès de Bruxelles.
Dans les dossiers du scandale de l'amiante, la justice s'achemine vers un non-lieu pour les décideurs publics. La Cour de cassation a confirmé hier l'abandon des poursuites. Ce n'est pourtant pas fini, nous dira le président d'une association de victimes.
Et puis l'Union européenne est prête à aider Theresa May, mais il n'y aura pas de renégociation du Brexit. L'incertitude règne. Nous irons dans une entreprise britannique.
Nous donnerons enfin la parole à la cousine du cinéaste Oleg Sentsov. Elle recevra pour lui ce midi le prix Sakharov au Parlement européen. Le niveau de vigilance en France est au niveau urgence attentat depuis 2 heures cette nuit. Sur décision du gouvernement après une attaque à Strasbourg, un peu avant 20h, un homme équipé d'une arme automatique et d'une arme blanche a tiré sur des passants faisant 3 morts, 13 blessés, dont 8 sont dans un état grave. C'était en plein centre-ville, à quelques mètres d'un marché de Noël, devant Jonathan, serveur dans un restaurant situé en face de l'attaque. L'un de ses clients a été touché. Il a tout vu et nous raconte au téléphone, tendez l'oreille.
Le client sortait, il venait de prendre son apéritif, ils sont juste rentrés pour boire l'apéro, il a payé, sa femme est allée aux toilettes, lui il est sorti et au moment où il sortait, l'autre est venu ou arrivé de je ne sais pas quel côté, il lui a tiré dessus et moi à ce moment-là, quand j'ai entendu la détonation, je suis sorti en courant et j'ai vu le client tomber à terre, se vider de son sang et un homme partir en courant dans les rues en parallèle. Et plusieurs qui a tiré encore et encore et encore, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je suis rentré dans le restaurant, j'ai demandé à tout le monde de se mettre à terre, j'ai laissé les volets, on a éteint les lumières et on a appelé les urgences. Avec les autres collègues, on a essayé de prendre la victime en charge, de lui tenir la tête, mais bon, en vain.
Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Spécialiste des questions police-justice à France Culture. Florence, que sait-on ce matin du tireur ?
L'individu a été rapidement identifié, apparemment à partir des images de vidéosurveillance, car il était connu des services de police. C'est un homme de 29 ans, originaire de Strasbourg, avec un lourd passé judiciaire, plusieurs fois condamné pour des faits de droit commun à la fois en France et en Allemagne, mais aussi fiché S et repéré par les services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, car considéré comme proche de la mouvance islamiste. Il s'était fait remarquer en prison pour son prosélytisme, mais il avait purgé ses peines, a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et c'est encore pour une affaire de droit commun, apparemment un braquage avec une tentative d'homicide que les gendarmes ont perquisitionné hier matin son domicile. Il n'y était pas, mais les gendarmes auraient retrouvé au moins une grenade chez lui. Et l'on peut s'interroger sur le lien éventuel entre cette intervention des forces de l'ordre et le passage à l'acte d'un individu qui se sait recherché et qui ouvre le feu avec une arme automatique en plein marché. Marché de Noël, un espace particulièrement surveillé. N'oublions pas que ce marché de Noël de Strasbourg avait été l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. Mais impossible à sécuriser complètement, surtout face à un individu isolé. L'attaque d'hier soir en est encore une preuve. À ce stade, les autorités gouvernementales n'ont pas prononcé le mot attentat, mais le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Et l'homme, le tireur, rappelons-le, Florence, a pris la fuite après l'attaque hier. Ce matin, les recherches se poursuivent.
Oui, dès hier soir, le gouvernement a décidé de porter le dispositif Vigipirate au niveau urgence à Tata, avec contrôle renforcé aux frontières, en particulier, vous vous en doutez, la frontière franco-allemande, toujours sous très haute surveillance ce matin, puisque l'homme est toujours en fuite. 670 personnes mobilisées parmi les forces de l'ordre, cela fait 420 policiers, 250 gendarmes avec 2 hélicoptères à l'appui, des recherches qui se concentrent aussi dans le quartier de Neudorf à Strasbourg, où résidait l'homme en question, là où son domicile a été perquisitionné hier matin, là où il aurait pu se retrancher après 2 confrontations directes avec les forces de sécurité dans la nuit et à chaque fois des échanges de tirs. L'homme a pris la fuite d'abord à pied, puis en s'engouffrant dans un taxi et le chauffeur a indiqué à la police que le suspect était blessé.
Merci Florence Turm pour ces premiers éléments. Vous l'évoquiez, le quartier du Neudorf ainsi que le centre-ville de Strasbourg ont été bouclés hier soir, les passants et les habitants confinés. Ce n'est plus le cas ce matin. Idem pour les eurodéputés et leurs équipes dans le Parlement européen. Viser la ville de Strasbourg prend une dimension symbolique pour le président de la région Grand Est, Jean Rottner.
Strasbourg, cette ville symbole de l'ouverture au monde, cette capitale européenne, cette ville qui accueille un des marchés de Noël les plus fabuleux de notre pays, qui est le symbole de la lumière, de l'ouverture, de la communauté au sens large, qui est en capacité de se retrouver, est meurtrie. Les premières pensées vont naturellement aux victimes, à leurs familles, mais aussi aux forces de l'ordre et aux forces de santé, et aussi aux Strasbourgeois. Il y a eu une solidarité absolument exceptionnelle et formidable de la part des restaurateurs, d'habitants qui ont recueilli des personnes dans la rue pour les accueillir chez eux et les protéger. Ça aussi, c'est, je crois, la France qui est en capacité de se serrer les coudes dans ces moments extrêmement difficiles. Je remercie tous les messages de solidarité qui arrivent.
Emmanuel Macron a d'ailleurs exprimé la solidarité de la nation tout entière sur le réseau social Twitter hier soir. Il a par ailleurs présidé pendant plus d'une heure une réunion de crise au ministère de l'Intérieur. Et si généralement tous les responsables politiques apportent leur soutien aux victimes, familles et forces de l'ordre, déjà à droite et à l'extrême droite, des critiques se font entendre. Laurent Wauquiez, le président du Parti Les Républicains, se demande pourquoi la France n'adapte pas son droit à la lutte contre le terrorisme. Marine Le Pen du Rassemblement National évoque, elle, une politique manifestement défaillante. Le parquet antiterroriste, nous le rappelons, a été saisi. Aucune revendication, aucune motivation, surtout pour le moment, n'a été établie. Les forces de l'ordre, eux, continuent à rechercher le tireur. Avant d'organiser la réunion de crise hier soir, Emmanuel Macron recevait les parlementaires de la majorité La République En Marche à l'Élysée. Il est revenu avec eux sur les 3 semaines de crise des Gilets jaunes. Les propos du chef de l'État étaient dans les grandes lignes les mêmes que ceux de son allocution télévisée avant-hier soir. Le président de la République, qui s'est aussi adressé aux banques hier, obtenant un gel des frais bancaires pour l'année 2019, ainsi que le plafonnement à 25 euros des frais d'incident, des mesures qui concerneront 3 600 000 personnes et qui permettront de rendre aux ménages 500 à 600 millions d'euros de pouvoir d'achat. Notons enfin que le gouvernement appelait les entreprises qui le peuvent à distribuer à leurs salariés des primes de fin d'année défiscalisées et désocialisées. Orange et Total viennent s'ajouter à la liste. Comme le groupe Altice, ces deux entreprises ont fait savoir hier qu'elles distribueront une prime exceptionnelle entre 500 et 1 000 euros pour Orange, 1 500 euros chez Total. Emmanuel Macron doit recevoir aujourd'hui les PDG des grandes entreprises. Voilà pour les gestes du secteur privé. L'État, lui, concédera près de 10 milliards d'euros de mesures. Le chiffre est encore à préciser. Cela devrait dépasser les règles budgétaires européennes qu'Emmanuel Macron voulait suivre. Le déficit public de la France pourrait donc dépasser les 3%. Ce dont se félicite non pas Bruxelles, évidemment, mais Rome. Le gouvernement italien y voit un signal favorable, alors qu'il fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif, Mathilde Imberti.
Les gouvernants italiens se sentent poussés des ailes avec la perspective d'un creusement du déficit côté français. Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, ironise volontiers sur les revers de son adversaire.
Je veux rappeler qu'il y a seulement quelques mois, Macron était le champion de la nouvelle Europe, le nouveau génie, le sauveur de l'Europe. Ils se sont encore trompés. Je souhaite du courage aux Français.
La bénédiction envers les Gilets jaunes arrive d'autre part des 5 étoiles. Certains dans le mouvement n'hésitent pas à prôner une alliance avec d'éventuels candidats Gilets jaunes aux élections européennes. À écouter Luigi Di Maio, leur leader, l'Italie a pris de l'avance.
Ce que revendiquent les Gilets jaunes dans la rue, nous l'avons inscrit dans le contrat de gouvernement. Et j'anticipe un peu, mais ces mesures se trouveront dans la prochaine loi de finances.
Si les règles sont les mêmes pour tous, le déficit français va poser problème, ajoute Di Maio, alors que l'Italie, menacée d'une procédure pour déficit excessif, n'a pas bougé d'une ligne pour l'instant son budget. Giuseppe Conte voit tout à l'heure le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le président du Conseil italien, pris entre deux feux, celui de Bruxelles et celui des deux partis qui l'ont désigné, qui ne sont pas d'accord sur les concessions à faire et encore moins prêts aujourd'hui qu'hier à recevoir des leçons.
La règle des 3%, est-ce un lointain souvenir pour la France? Ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss après ce journal. Avant cela, revenons sur ce nouveau revers judiciaire pour les victimes de l'amiante. Dans les deux dossiers emblématiques, le campus parisien de Jussieu et les chantiers navals Normed de Dunkerque, la Cour de cassation a confirmé hier l'annulation des mises en examen. Après 22 ans de combat judiciaire, les associations de victimes vont maintenant se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Signe selon Michel Parigot, le président du comité anti-amiante de Jussieu, signe selon lui d'une faillite de l'institution judiciaire dans ces dossiers.
ça montre l'incapacité de l'institution judiciaire à traiter ces problèmes de santé publique, c'est-à-dire le fait d'annuler des mises en examen dans une instruction qui dure depuis 22 ans et qui n'est pas conclusive, c'est un problème en soi. Maintenant, le résultat lui-même ne signifie absolument pas la fin de l'affaire de l'amiante, ni même la fin des deux dossiers en question, Jussieu et Normède, qui étaient les deux dossiers dans lesquels avaient été mises en cause les responsabilités nationales dans l'affaire de l'amiante, c'est-à-dire les véritables responsabilités de cette catastrophe sanitaire. Là, maintenant, on va faire un recours devant la Cour européenne avec des chances de succès très grandes, dirais-je.
Notons qu'en 2012, les autorités sanitaires estimaient que l'amiante pourrait provoquer d'ici à 2025 3000 décès chaque année. La CFDT est devenue le premier syndicat français, public et privé confondu. Les élections professionnelles ont connu toutefois cette année une baisse historique de la participation, passant symboliquement sous la barre des 50%.
8h11 sur France Culture, la suite des matins de Clara Lecoq-Réal, du journal de Clara Lecoq-Réal et matins de France Culture. Clara, Theresa May doit affronter une nouvelle fois les députés britanniques.
Oui, la Première ministre sera cet après-midi devant la Chambre des communes pour la traditionnelle séance hebdomadaire de questions au chef du gouvernement. Affronter les députés, oui, car elle est encore sous le feu des critiques, surtout après avoir annulé le vote du Parlement sur son texte à propos du Brexit. Theresa May espère renégocier ce texte avec Bruxelles, qui ferme déjà la porte. Le projet, lui, ne reviendra pas devant le Parlement à Londres avant le 21 janvier prochain, et le doute perdure au Royaume-Uni, particulièrement dans les entreprises liées à la finance, Antoine Gignot.
Après 2 ans et demi d'incertitude, pour Marieke Flamand, ce Brexit ressemble de plus en plus à un cauchemar. Elle dirige la branche européenne de Circle, une plateforme d'échange de monnaie numérique qui compte plus de 7 millions d'utilisateurs, et elle n'a toujours aucune idée de ce qui va se passer dans 3 mois.
Pour un business, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, il faut prévoir un plan A, un plan B, un plan C, éventuellement un plan D. Et le problème, c'est que l'incertitude fait que les gens, du coup, se décident pas forcément. Donc en termes de capital, d'investissement, de temps qui doit être passé à réfléchir, c'est extrêmement prenant. En fait, on ne sait pas les grandes décisions majeures, on n'est toujours pas capable de les prendre.
Dans le doute, l'entreprise anticipe une sortie sans accord de l'Union européenne avec des équipes installées hors du Royaume-Uni, à Dublin, et des nouveaux bureaux à Paris.
Il nous faut déjà, dans plusieurs autres pays, commencer à discuter avec les régulateurs. Tous les grands groupes sont obligés de se préparer. Il y a énormément de bureaux qui ont été construits à Dublin pour justement pouvoir aménager les besoins et les demandes. Donc quoi qu'on en dise, quelque que soient les chiffres qui soient annoncés, l'impact est réel. Et il est déjà là.
Cet impact du Brexit, l'Institut National de Recherche Économique vient d'ailleurs de le chiffrer. La croissance n'a pas dépassé 0,1% le mois dernier.
Son arrestation avait semé le trouble dans les relations sino-américaines. La directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei va être remise en liberté sous caution par le Canada. Les États-Unis avaient demandé son extradition pour des raisons qui restent encore assez floues. Lui est toujours emprisonné, le cinéaste Oleg Sentsov, dans le grand nord de la Russie. Originaire de la péninsule ukrainienne de Crimée, dont il a toujours dénoncé l'annexion, il est devenu l'un des symboles de la résistance démocratique au régime de Vladimir Poutine. Ce mercredi midi, le Parlement européen va lui remettre solennellement son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2018. Un prix remis en son absence, Anya Vogel.
Les appels à la libération d'Oleg Sentsov sont restés lettre morte. Personne au Parlement européen ne se faisait d'illusions. C'est donc à son avocat et à sa cousine venue de Kiev que sera remis solennellement le prix Sakharov. Natalia Kaplan lira un message du réalisateur condamné à 20 ans de prison pour avoir, selon Moscou, planifié des attentats terroristes en Crimée après son annexion et qui se remet lentement de sa grève de la faim.
Les dernières nouvelles que nous avons d'Oleg Sentsov, c'est qu'il va mieux. Mais les 145 jours de grève de la faim ont laissé des traces. Il a des problèmes graves au niveau des reins, du foie et du cœur. Il peut voir son avocat, mais pas de médecin indépendant du pouvoir, ce qui fait que nous n'avons pas d'informations objectives sur son état de santé, ni sur les traitements qu'il reçoit. Il se trouve toujours dans un camp au-delà du cercle polaire, dans l'Arctique russe.
Pour Oleg Sentsov, ce prix Sakharov est un message fort en faveur de la libération des prisonniers politiques en Russie, un outil pour leur éviter de tomber dans l'oubli. L'emprisonnement n'enlève rien à sa détermination. Il travaille actuellement à porter à l'écran sa pièce Numbers, écrite bien avant les événements de Maïdan, sur les comportements individuels sous un régime totalitaire.
Ania Vogel depuis Strasbourg pour France Culture Strasbourg, où nous vous le rappelons, une attaque a eu lieu hier soir. Attaque d'un homme armé, 3 personnes ont été tuées près d'un marché de Noël, 13 autres ont été blessées et en ce moment même une intervention de police a lieu dans les secteurs de la cathédrale de Strasbourg. Nous y reviendrons évidemment dans notre prochain journal, ce sera à 9h. Quelques mots de la météo qui s'annonce, de fines pluies à l'ouest de l'Hexagone, des brouillards sur l'est, en voici les grandes ligne avec des températures plus fraîches qu'hier. Il fait ce matin 0 degré à Lille et à Besançon, 1 degré à Paris et Lyon, 4 à Rennes, 7 à Bayonne, comptez 9 degrés à Marseille.